déroulement du livre. Parcourant leur ville et leur village, il enseignait.
À Déroulement du livre, aujourd'hui, nous vous présentons une émission animée par l'abbé Martin Lagacé, prêtre de la communauté de l'Emmanuel. La série s'intitule « La deuxième lettre aux Corinthiens ou la condition d'apôtre ».
Alors, frères et sœurs, nous continuons notre méditation des passages saillants de la deuxième lettre aux Corinthiens. On ne peut pas toute l'analyser en détail, ce serait trop long et fastidieux. Mais cette deuxième lettre aux Corinthiens est une épître, on pourrait dire, à cœur ouvert. Elle est admirable et émouvante parce que Paul nous ouvre son cœur sur son expérience personnelle d'apôtre. On y sent à la fois l'amertume et la joie. On y sent toute sa théologie, sa puissante théologie, en même temps que ses sentiments intimes. Je vous rappelle un petit peu le contexte de cette deuxième lettre. En fait, on peut dire qu'il y a quatre lettres probablement aux Corinthiens. Il y a une première que l'on ne connaît pas, mais on sait qu'elle existe parce que Paul y fait allusion dans la première lettre aux Corinthiens. Et cette première lettre aux Corinthiens, on sait qu'elle est quand même assez sévère. Paul, qui est le fondateur de cette communauté, a beaucoup de redressements à faire, de corrections. Il y a eu des dérives. Et donc, cette première lettre sera suivie d'une visite de Paul à Corinthe. Mais cette visite, malheureusement, va mal se passer. Et Paul va être comme blessé dans son autorité. Et donc, il retourne à Éphèse. Et puis, il écrit une troisième lettre qu'on ne connaît pas, mais qu'on connaît parce que Paul y fait allusion encore une fois, écrite dans les larmes, où Paul est obligé de dire ce qui l'a blessé et encore une fois de faire des mises au point. Et cette lettre, elle, va porter des fruits. Comment est-ce que Paul le sait? C'est grâce au voyage de Tite, son collaborateur, qui ira donc à Corinthe et qui fera le constat que la communauté s'est amendée et qu'elle a décidé de se remettre sous cette autorité de Paul qui avait été contestée également de sa doctrine par des prédicateurs judaïsants, entre guillemets, qui prêchaient le retour à la loi de Moïse, entre autres, et aussi qui critiquaient sévèrement l'apostolat de Paul. Donc Paul est dans la joie, il est consolé parce que il apprend de Tite, donc c'est la réconciliation qui a lieu. Donc il écrit une quatrième lettre qui est celle que nous connaissons, celle que nous analysons aujourd'hui, qui est la deuxième lettre aux Corinthiens et qui commence par cet admirable hymne à la consolation, où Paul dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation qui nous console dans nos épreuves. » Alors évidemment, puisque Paul vient d'être consolé parce que Tite lui a rapporté. Mais quand même, Paul doit encore faire quelques justifications de ses conduites par rapport à certaines accusations qui pourraient être injustes. Et il dit « Est-ce que notre conduite a été oui ou non selon la chair ?» Mais il n'y a eu que oui dans notre conduite, Paul, et puisqu'elle s'appuie sur le Christ, dit-il, et toutes les promesses de Dieu ont leur oui dans le Christ, dira-t-il, ainsi, disons-nous, amen à sa gloire dans le Christ, amen à la gloire de Dieu. Donc il refonde encore une fois son action, ses décisions pastorales dans le Christ, de même que le Christ est tout oui à son Père, lui-même et les apôtres ont été tout oui au Christ qui est le grand pasteur. Ensuite, les chapitres 3 et 4, Paul parle des grandeurs et misères du ministère apostolique, qui est marqué profondément par le mystère pascal. Rappelez-vous cette phrase étonnante, « La mort fait son œuvre en nous et la vie en vous ». Mais revenons ensemble, si vous voulez, sur la fin de ce chapitre 4. Ces chapitres 4 et 5 qui sont un peu le carrefour théologique de cette deuxième lettre aux Corinthiens. Voici ce qu'il écrit au verset 13. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Paul ici cite le psaume 115 et versets 10 à 14. « Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. » Donc dans ce psaume, on sent justement ces deux moments. Un moment, je dirais, de déception, hein. Je n'ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge, mais en même temps qui se transforme en action de grâce. Donc malgré les blessures, malgré les déceptions qui ont pu avoir lieu, Paul encore une fois se recentre sur Dieu. Je dirais c'est la force théologale de saint Paul. Encore une fois, il nous dit « Celui qui nous rend solides dans nos rapports avec vous, c'est Dieu qui nous a marqués de son sceau de l'Esprit-Saint, prémisse de la vie éternelle. » Il dira aussi dans l'Épître aux Philippiens « Je peux tout en celui qui me fortifie. » Donc il dit « Je crois et je parlerai. » On ressent ici toute la profondeur de cette foi juive, cette foi qui est au fond la foi d'Abraham, qui a sa racine en Abraham. Cet Abraham dont Paul fait l'éloge dans l'Épître aux Romains et l'Épître aux Galates, et dont il fait un peu la racine ou le fondement de sa théologie. En effet, il écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, verset 20, « Devant la promesse de Dieu, Abraham n'hésita pas. Il ne manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis, et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. » Mais cette foi, elle a un objet précis comme chrétien, qui n'était pas encore le même objet pour Abraham. En effet, au verset 14, Paul dit, toujours dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, « Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus. » La résurrection du Christ, c'est ça la foi chrétienne d'une certaine manière. Paul dira dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, « Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi et vide notre prédication. » Et le Christ lui-même dira « Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Alors Paul continue toujours dans ce chapitre 4 en énonçant une série d'antithèses. Vous rappelez que cette lettre est comme farcie, si j'ose dire, de ces antithèses. On l'a vu au début avec désolation, consolation. On le verra au chapitre 12 dans un passage fameux où Paul dit cette chose étonnante. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Alors ces antithèses touchent à différents thèmes, nous allons le voir, donc au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Donc, première antithèse, l'homme extérieur et l'homme intérieur. Alors, c'est l'occasion d'une mise au point importante de faire attention de pas mettre des réalités en opposition, tomber dans le piège d'un dualisme d'inspiration platonicienne. Vous savez que Platon opposait les réalités sensibles aux réalités intellectuelles ou spirituelles et que cela induisait une forme de mépris pour ce qui est matériel et sensible, donc. Et cela pourrait aussi amener à une espèce de mépris du corps. Platon disait que le corps est le tombeau de l'âme. Mais nous savons que Paul n'est pas dans ce christianisme éthéré. Rappelez-vous, il dit encore une fois, nous portons dans notre corps les souffrances du Christ. Il a vraiment incarné dans sa vie ce mystère de mort et de résurrection. Donc, quelle est cette apparence d'opposition entre l'homme intérieur et l'homme extérieur? On pourrait la mettre en parallèle avec une autre antithèse, une autre dialectique, celle de l'homme ancien et de l'homme nouveau. Voici ce que Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, verset 22. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur, pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Alors comment revêtir l'homme nouveau? Sinon, évidemment, dans les eaux du baptême. Il dira aussi dans l'Épître aux Galates, vous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Alors, il parle de transformation spirituelle, c'est-à-dire que la conversion, la foi chrétienne, fait naître au fond un nouveau centre dans l'être humain, le cœur profond, la conscience s'éveille au contact de la grâce. Moi-même, quand je me suis converti à l'âge de 24 ans, j'ai eu vraiment cette impression que je quittais la périphérie de mon être pour entrer dans le centre de mon être. Je vivais dans mes sens, dans mon intellect, qui sont des bonnes choses, mais vide de l'intérieur. C'est Dieu qui m'a ramené à mon propre cœur. Et comme dit le proverbe, « Veille sur ton cœur, car c'est de lui que jaillit la vie. » Et Paul le dit aussi dans un passage que j'aime beaucoup, je cite souvent, dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, il dit « Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que la transformation de votre jugement vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Donc l'homme nouveau a un nouveau centre et il a comme une nouvelle boussole. C'est cette volonté de Dieu qui lui est communiquée par la parole de Dieu, l'enseignement de l'Église, mais également par les motions intérieures de l'Esprit-Saint. Cet homme nouveau, il a été comme séparé du monde. C'est Jésus qui le dit dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 17. À propos des apôtres, il dit en s'adressant au Père, « Ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Je te demande de les garder du mauvais. » Donc, l'homme intérieur ou l'homme nouveau, c'est celui qui a été tiré du monde, mis à part, qui échappe à l'emprise du mauvais, du diable, qui est le prince de ce monde. Paul dira aussi dans l'Épître aux Colossiens, « Vous avez été arrachés au pouvoir des ténèbres et transférés dans le royaume du Fils bien-aimé. » Et Paul dira aussi dans l'Épître aux Romains, « Ceux-là sont fils de Dieu, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit-Saint. » Donc l'homme nouveau a un nouveau centre, mais il a aussi un nouveau dynamisme, une énergéia, on dit en grec, et c'est la puissance de l'Esprit-Saint. J'utilise souvent cette image, celle de la différence entre la navigation à rame et la navigation à voile. L'homme charnel, c'est l'homme qui repose sur ses ressources seulement humaines. Certes, c'est une belle créature que l'être humain, mais il rame dans ce monde. Tandis que l'homme nouveau, celui qui a été mis à part, celui qui a été renouvelé dans son jugement, lui, a une voile qui lui permet de capter cette puissance de l'Esprit-Saint et de se laisser conduire par l'Esprit-Saint. Donc, il va beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et d'une manière beaucoup moins pénible. Donc, pas d'opposition entre l'homme intérieur et l'homme extérieur, mais simplement un réordonnancement. Si c'est l'homme intérieur qui gouverne l'homme extérieur, si c'est l'âme, si on peut dire, qui règne sur le corps, alors l'homme est de retour dans le plan de Dieu. Il est cet homme nouveau. Voici ce que nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 16. « Dieu qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. » Donc cet homme intérieur, encore une fois, il reçoit son énergie, sa force, de la puissance de l'Esprit-Saint qui le renouvelle intérieurement. Paul dira aussi ailleurs, « Laissez-vous conduire intérieurement par un esprit renouvelé. » Ensuite, Paul utilise au verset 17-18 un autre paradoxe. Voici ce qu'il dit. « Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. » Donc, une détresse qui produit de la gloire. Là, on retrouve un binôme ou un couplage qui est récurrent dans l'Écriture sainte, et spécialement dans le Nouveau Testament. C'est le rapport entre souffrance et gloire. Rappelez-vous ce que Jésus dit aux disciples d'Emmaüs le soir de Pâques, c'est dans Saint Luc au chapitre 24. Il dit à propos des Écritures, « Ne fallait-il pas que le Messie souffrît avant d'entrer dans sa gloire ?» Voici aussi ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 17 et 18. « Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. » Donc, il y a encore une fois cette antithèse ou ce vif contraste entre souffrance et gloire. La souffrance, elle, est limitée dans le temps. La gloire, elle, est définitive. On le voit d'abord dans le Christ, qui a souffert terriblement dans sa passion, mais cette passion a duré un temps, tandis que la gloire que son Père lui a donnée est éternelle. Et c'est cela la grande promesse chrétienne. Mais on peut aussi se poser une autre question. Est-ce que notre gloire, nous allons la mériter par la souffrance? Malheureusement, ça a été un peu une pensée prédominante dans un certain christianisme où il fallait souffrir dans ce monde pour être heureux dans l'autre et on mettait une espèce d'équivalence entre les deux. C'est un petit peu court comme raisonnement théologique. Pierre dit dans sa première épître au chapitre 4, versets 13 à 14, « Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. » Donc il dit bien « quand vous communiez aux souffrances du Christ ». Parce que la souffrance humaine en elle-même n'a pas de valeur. C'est dans le Christ qu'elle trouve une valeur. Donc, est-ce qu'il y a mérite de la gloire parce qu'on souffre? En tout cas, la grande leçon ici, c'est que si nous vivons, si nous souffrons avec lui, comme dit Paul, avec lui nous serons dans la gloire. Parce que la vie chrétienne est une vie dans le Christ. Donc tout ce qui appartient au Christ nous appartient parce que par le baptême, nous sommes devenus, comme dit Paul au chapitre 6 de l'Épître aux Romains, nous sommes devenus un seul être avec le Christ. Et donc il continue en disant à nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Rappelez-vous ce que dit l'Épître aux Hébreux, par la foi, au chapitre 11, pardon, par la foi, Moïse, comme s'il voyait l'invisible, tint ferme. Moïse, comme s'il voyait l'invisible. C'est-à-dire qu'il était inspiré par Dieu, par le projet de Dieu, et sa foi tenait solidement parce qu'il voyait comme l'invisible. au début de l'Épître aux Hébreux, nous entendons aussi que la foi nous apprend que les choses visibles ont une origine invisible. Encore une fois, ne tombons pas dans le piège des antithèses ou des oppositions entre visible et invisible. C'est une clé de la théologie chrétienne d'éviter ce piège de l'opposition comme celui entre l'esprit et la chair. Parce que si on les oppose, on tombe dans le dualisme, encore une fois, on tombe dans des hérésies comme le catharisme, qui méprise la chair, la sexualité, les réalités terrestres. Or, elles ne sont pas opposées, elles sont hiérarchisées. C'est très important de comprendre ça. Toutes les antithèses que Paul utilise ici, il faut les comprendre dans un ordre. Si l'esprit règne sur la chair, alors, eh bien, la chair est bonne et l'esprit aussi. Parce que l'esprit peut mépriser la chair, ce qui conduit au spiritualisme, qui est une désincarnation, comme la chair peut mépriser l'esprit, et là on tombe dans l'animalité au fond, et dans la déchéance de notre nature. Jésus est la démonstration de cette beauté de la nature humaine, chair et esprit, puisque il s'est fait chair, dit Saint Jean dans son prologue. Le Verbe qui était auprès du Père, il a planté sa tente au milieu de nous, donnant à la chair humaine une valeur, on pourrait dire, divine. J'aime beaucoup, dans le temps de Noël, inviter les fidèles à contempler la crèche, parce que dans la crèche, tout l'univers est comme récapitulé. Il y a cette grotte, le monde minéral, il y a ces plantes autour, le végétal, il y a les moutons, le règne animal, il y a les bergers, les humains, mais il y a le couple chrétien, et au centre, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant Dieu. Donc, dans le mystère de l'incarnation, il y a une récapitulation de tout ce qui est créé en remettant Dieu au centre. Et alors, toutes les choses reprennent leur juste place et leur juste valeur. Tout est bon, du minéral jusqu'à l'angélique. D'ailleurs, j'ai oublié que dans la représentation traditionnelle de la crèche, on a souvent des anges. Voilà, donc tout est récapitulé, mais dans un ordre. Et c'est pour ça que cette contemplation de la crèche nous met dans la paix. Il y a quelque chose de qui nous rejoint dans notre nature profonde, qui nous rassure sur la beauté et la bonté de l'œuvre de Dieu. Alors, en effet, Paul continue donc au deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Nous le savons en effet, même si notre corps, cette tente qui est une demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas l'œuvre des hommes. Alors, dans ce passage, qui est assez touffu, si vous le lisez au complet, dans le chapitre 5, vous verrez que c'est pas toujours facile à comprendre. Paul nous parle de ce qu'on pourrait appeler l'avenir eschatologique du corps humain ou de la nature humaine. Et il nous donne plusieurs leçons en cela. D'abord, il nous enseigne que la condition céleste, évidemment, est infiniment meilleure. Et il dit au verset 6 que nous sommes en exil sur la terre, loin du Christ. Mais en même temps, cette condition céleste n'est pas désincarnée. Vous savez que Saint Jean-Paul II, dans sa théologie du corps, a fait une belle réflexion à partir des Écritures en nous montrant que dans la gloire, nous aurons un corps sexué. Nous serons hommes et femmes. Nous ne serons pas des anges, même si Jésus dit « vous serez comme des anges » au sens où il n'y aura plus de reproduction charnelle, mais nous ne serons pas des anges asexués. Nous ressusciterons avec notre corps, ce corps de misère, dit Paul, c'est-à-dire qui est marqué par la souffrance et la mort, pour devenir un corps de gloire, c'est-à-dire qui va hériter des attributs divins, si l'on peut dire, c'est-à-dire l'incorruptibilité, l'impeccabilité. Il n'y aura plus de dégénérescence ni de péché dans notre corps. Alors, on peut se poser la question, comment ressuscite-t-on? Et Paul avait déjà abordé cette question avec les Corinthiens. Vous vous rappelez au chapitre 15 de sa première lettre, voici ce qu'il dit, au verset 35. « Comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Réfléchis donc. » Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord. Et Paul va continuer donc à élaborer cette théologie du corps eschatologique, du corps dans l'au-delà. Alors, c'est assez riche, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a simplement deux vérités essentielles, il me semble, à retenir dans cette métaphore. Ce que tu sèmes ne peut prendre vie sans mourir d'abord. Nous savons que le grain de blé, pour qu'il donne un épi avec 30, 50, 100 pour un, comme dit l'Écriture, il faut d'abord qu'il meure à sa forme première, qu'il perde son écorce et qu'il pourrisse dans la terre pour germer et donner quelque chose qui est infiniment plus grand que lui-même. Donc, dans ce passage, dans cette transformation, il y a à la fois rupture et continuité. C'est les deux grandes vérités qu'on peut comprendre de cet exposé. Oui, nous serons les mêmes, mais nous serons plus les mêmes. Nous serons transformés dans une condition incomparablement plus grande et plus belle. Alors, il continue au verset 24. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé dans l'ignominie ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé dans la faiblesse ressuscite dans la puissance. » Donc, rupture, c'est-à-dire de rupture de la forme, notre corps de misère sera complètement transformé, comme le grain est transformé dans l'épi et 30, 50, 100 fois lui-même, mais en même temps, continuité ontologique, nous serons hommes et femmes, nous serons avec un corps vraiment humain qui sera impérissable et impeccable. Et Paul continue en nous donnant une dernière leçon sur cette question délicate et difficile de notre condition céleste, notre condition dans l'au-delà, en disant, eh bien, ce que nous avons à cœur, c'est de plaire au Seigneur, que nous soyons dans ce corps ou dans la condition céleste. Donc, au fond, Paul aussi nous donne une leçon très simple. Ce qui fait notre vie, ce qui fait notre gloire, que ce soit sur cette terre ou dans l'autre monde, c'est de plaire au Seigneur, c'est de garder cette union de volonté pour souffrir avec lui si c'est nécessaire. Dieu ne nous envoie pas la souffrance, comme on dit, mais là, on sait que la vie est inévitablement souffrante. Mais unie avec le Christ, quand nous vivons cette souffrance avec le Christ, c'est-à-dire par la prière, les sacrements, la parole de Dieu, eh bien, cette souffrance nous prépare une masse éternelle de gloire. C'est une manière de dire que c'est incomparablement meilleur et plus riche qui nous attend, et que si cette souffrance est passagère, cette gloire, elle, est définitive. Amen.
À déroulement du livre, vous venez d'entendre l'abbé Martin Lagacé, prêtre de la communauté de l'Emmanuel, dans une série intitulée « La deuxième lettre aux Corinthiens ou la condition d'apôtre ».